Alors, petit plan, je vais vous montrer moins d'extraits de prévu pour aller un peu plus vite que sur Parvana, mais je vais quand même vous dire l'essentiel. Premier temps, on va s'interroger à la dystopie, un lieu et un temps, le lieu et le temps de la science-fiction qui sont recréés. Deuxième temps, on va s'intéresser aux métamorphoses du héros. Et troisième temps, à la fable de science-fiction, à la science-fiction comme une fable philosophique. Alors, la dystopie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une utopie qui tourne mal, comme le dit le préfixe 10, hein, c'est le lieu, topos, voilà, c'est le lieu qui tourne mal. Donc, dès le début de Gattaca, vous avez ce carton, enfin plutôt, c'est pas vraiment un carton, c'est un titre qui apparaît sur l'image, The Not Too Distant Future, ce futur pas si lointain, pas si distant, qui est annoncé. Et je vous ai mis voilà, deux images, une image de THX 130, pardon, 1138 et de la jetée. Qu'est-ce que je vous montre? THX, alors c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que THX a été tourné dans les mêmes décors. Donc, je peux vous. Alors peut-être. Ça dépend de l'heure. Non, je vais vous en montrer qu'un. Je vais vous montrer une scène qui se situe relativement au début de THX. Le début du film, de toute façon, de Gattaca, vous l'avez aussi en partie analysé. La chose qui m'intéresse dans le début, vous vous souvenez du générique, c'est les ongles qui tombent, les fils, enfin les cheveux qui tombent, etc. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce début, c'est l'infiniment petit. C'est qu'on va saisir quelque chose qu'on voit en très très gros plan, changer le point de vue sur cette chose. Et à la fin du film, où est-ce qu'on va? On va dans l'espace, on va dans l'infiniment grand. Donc on part de l'infiniment petit pour aller dans l'infiniment grand, et le personnage pose la question du retour. Donc il y a quelque chose ici de très beau sur où est-ce qu'on met son point de vue sur le petit et le grand. On regarde THX, et voilà, vous allez voir, donc film de Georges Lucas. Je vous laisse profiter et essayer de regarder en particulier les lieux. Alors, vous voyez, bon, d'abord, évidemment, c'est Big Brother et le maître ici est un ordinateur et une bande magnétique qui roule à vide. Donc, le maître, le dieu du film, est une machine. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une peur de l'époque qu'on retrouve déjà un peu avant, dans 2001, hein, comment la machine prend possession et finalement, ça résonne aussi avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, comment elle devient notre maître, notre maîtresse. Point intéressant, le personnage va se confier dans cette espèce de cabinet de psychanalyse qui est surtout un confessionnal d'église. Hein, donc, il y a quelque chose vraiment autour de la religion et de l'aveuglement ou en tout cas l'embrigadement dans quelque chose qui est sacré et qui est impossible à remettre en question. Et on a l'idée de la première erreur humaine, c'est ce qu'il nous, c'est ce qu'il se confie, il nous dit, voilà, j'ai fait une faute, j'ai fait ça, j'ai mal fait, c'est la première fois. Il ne le sait pas, mais sa mate, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est celle qui vit avec lui, qui a été choisie automatiquement, qui est à la fois une roommate et une semi-compagne, a changé sa nourriture, ses médicaments. Donc, il y a eu cette erreur à cause de ça, et donc de cette erreur va naître d'autres erreurs, etc. C'est comment la machine s'enraye, et parce que la machine s'enraye, tout à coup, c'est la naissance de l'humanité, d'un sentiment humain, peut-être l'amour, etc., etc. Du point de vue du lieu, vous voyez que ce qui est intéressant quand vous le voyez surtout monter les escaliers, vous voyez que c'est le même escalier que dans Gattaca. C'est-à-dire que Nicole a repris ce lieu dont je vais vous montrer des photos tout de suite, qui est le centre administratif du comté de Marin à Saint-Raphaël, qui a été construit en 1962 par l'architecte Frank Lloyd Wright. Et je vous ai mis trois photos ici à droite du lieu tel qu'il est. Et dans Gattaca, vous avez voilà, en contraste ici. Alors vous voyez que Lucas utilise ce monde de façon où il joue vraiment sur le blanc, où chacun a perdu son identité, donc on est tous habillés pareil, tout le monde est en blanc. Et il a une façon de filmer les murs et le blanc et le parking, etc. Nicole, lui, va utiliser ce lieu surtout pour ses formes. Et vous voyez, un élément intéressant, c'est ce plafond ici qui prend beaucoup de place et qu'on ne voit quasiment jamais ou bord cadre dans Gattaca. Donc évidemment, il donne tout de suite un côté un peu, on respire, on voit du ciel. Quand on voit ça, on se dit, bon, bah, c'est pas si mal de travailler là, surtout quand vous travaillez dans des collèges, j'imagine, pas super beaux pour la plupart d'entre vous. Donc vous vous dites, ah, c'est pas mal. Mais dans Gattaca, vous dites, non, j'ai pas envie d'aller travailler dans ce lieu voilà, fermé. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est comment on laisse quelque chose bord cadre du réel, comment on le met hors champ pour créer une atmosphère. Donc là, c'est très intéressant comment et Lucas et Nicole réinventent ce lieu réel, assez fabuleux, en tout cas assez intéressant visuellement, pour en faire autre chose. La réinvention du lieu, elle dépasse le centre de Gattaca, et en particulier, il y a très peu de lieux dans le film finalement, hein, encore une fois, c'est un film minimaliste qui n'a pas eu assez, il aurait dû se faire avec beaucoup plus d'argent, donc le réalisateur a dû trouver des moyens de tromper, de créer quelque chose. Donc vous avez la maison de Jérôme Eugène et de fait de Vincent puisqu'il vient s'y installer avec les deux étages, avec cet escalier qui a la forme de l'ADN. Et vous voyez qu'à l'extérieur, quand on voit à l'extérieur, voilà, il y a l'effet bloc un peu brutaliste et on a le ciel évidemment qui est trafiqué avec un filtre pour créer une impression d'étrangeté. La plupart des plans à l'extérieur ont cette lumière jaune que vous voyez sur les deux plans ici à droite et au centre. Et Nicole dit qu'avec son chef opérateur, ils ont décidé, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, finalement de faire comme s'ils allaient peindre l'image. Et le fait de peindre, de mettre ce filtre jaune sur l'image, allait complètement réinventer les lieux et les déréaliser, en tout cas enlever le côté présent fin des années 90 au lieu. Ça donne tout de suite une teinte particulière, une étrangeté. Voilà. Et puis vous avez deux lieux intéressants aussi là qui sont utilisés. Le tunnel finalement, qui est un tunnel très banal, qui n'a pas demandé de travaux, mais comment le rendre extraordinaire ou différent? Par les lumières, par cette teinte verte, par ces lumières comme ça, etc. On crée un nouvel espace. Donc comment la lumière peut permettre de réinventer l'espace visuellement, c'est assez intéressant dans le film. Puis bon, alors là pour le coup, ils avaient une maison vraiment extraordinaire avec le... et un peu effrayante avec l'eau derrière. Et vous voyez que là aussi, c'est l'eau qui est éclairée et qui crée une étrangeté. Donc là encore, la lumière va créer sur cette maison de verre, la maison d'Irène, quelque chose de l'ordre de, voilà, voilà, de l'étrangeté. C'est un lieu qu'on n'a jamais vu, qui est un peu hors du temps. L'esthétique du film s'inspire du passé. Donc c'est assez étonnant pour un film de science-fiction, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait, notamment dans Blade Runner, l'image que vous voyez ici au centre. Ce passé, il est présent déjà dans le langage dès le début du film, dès la scène d'ouverture. Vous entendez que l'entreprise Gattaca fait sa publicité en anglais et en espéranto, langage international inventé au 19e siècle. Les voitures qui sont utilisées dans Gattaca, donc vous voyez ici, sont des voitures de collection qui sont volontairement datées. Et Nicole a eu une idée très intéressante avec son monteur son, c'est d'enlever le son des voitures pour leur donner une teinte électrique. Donc évidemment, ces voitures n'étaient pas du tout électriques, même pendant le tournage du film, hein, à la fin des 90. Et ça donne finalement une forme de modernité à ces voitures qui glissent comme ça et on n'a pas le ronronnement classique des voitures. Donc l'image peinte en jaune, j'en avais parlé. Les costumes des Hoovers, qui sont les policiers du film, c'est comme ça qu'ils les appellent, sont des trois pièces inspirées des costumes des 50 des films, en particulier des films noirs. Vous voyez ici Humphrey Bogart, Assurance sur la mort ou The Big Combo. Trois images qui montrent voilà, des costumes, des jeux aussi sur les films noirs. Souvent, c'est des films qui ont peu d'argent, donc qui jouent beaucoup sur l'obscurité, sur l'ombre, pour cacher des choses. Puisque voilà, on peut faire une scène extraordinaire en ombre chinoise, une scène extraordinaire devant un espace complètement jaune sans aucun figurant. Et finalement, on gagne beaucoup d'argent et esthétiquement, on peut naître une certaine force. Je pense que Blade Runner, qui est d'ailleurs une adaptation de Philip K. Dick, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, que je citais tout à l'heure, Blade Runner est vraiment un modèle, parce que dans Blade Runner, déjà, les costumes étaient ceux des années 50. Déjà, il y avait un travail sur les voitures un peu décalé. Donc Blade Runner, déjà, travaillait sur l'idée de créer un futur à partir du rétro. Ce qui a très mal vieilli dans Blade Runner, finalement, ou peut-être la musique, c'est les coiffures, parce qu'ils n'ont pas changé les coiffures, donc ils ont utilisé des coiffures années 80, donc vous avez les coiffures des personnages qui sont un peu décalées et qui font peut-être sourire aujourd'hui, même si ça fait partie du charme du film. Dans Gattaca, au contraire, ils sont allés jusqu'à choisir des coiffures qui rappellent les cheveux gominés des années 50 ou des stars hollywoodiennes de l'époque. Donc il y a un vrai travail comme ça, esthétique, pour créer ce futur pas si loin de nous. Deux œuvres phares peuvent permettre de mieux comprendre Gattaca. Alors, George Orwell, 1984, c'est le fameux Big Brother, alors qui est surtout très, très visible dans le film de Lucas, dont je viens de mettre un extrait, hein, c'est clairement la référence. Et donc, le roman pose la question, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, pose la question de qu'est-ce que c'est être surveillé, ne plus avoir de liberté, et d'un personnage qui va se rebeller par amour, exactement comme dans THX. Hein. Donc la question de la surveillance est première, et la question aussi finalement de la machine ou du tyran comme un dieu, dont on va finir par tomber amoureux et amoureuse du dieu qui nous tyrannise. Hein. Et Le meilleur des mondes, c'est un roman, au contraire, qui parle directement de l'eugénisme. C'est la question de l'eugénisme et des castes. Et il y a ceux qui n'ont pas été sélectionnés génétiquement, qui sont les sauvages. Et il y a les autres qui forment la classe dominante. Donc évidemment, c'est un roman aussi qui est central pour comprendre nombreux films de science-fiction, et en particulier Gattaca. Je vous ai mis quelques planches, quelques images sur cette idée de la surveillance. La surveillance dans Gattaca, elle prend deux formes. Celle de la police, qui va former une vraie intrigue secondaire, avec le policier frère en plus, à gauche, et celle de la médecine, puisque c'est la médecine qui va permettre de surveiller la goutte de sang, le cil, les yeux, etc., qui permettent de surveiller. Au centre, je vous ai mis deux images aussi qui sont intéressantes par rapport au récit. Celui qui nettoie, qui est un peu le passé du personnage de Vincent dans le film, hein, puisqu'il est d'abord entré à Gattaca comme homme de ménage. Il y a celui qui nettoie, qui va avoir un lien à la surveillance aussi, puisqu'il va cacher les signes. C'est lui qui va prendre le gobelet, par exemple, à un moment de Vincent, qui va le jeter, qui va protéger Vincent. Et puis, il y a le personnage qui n'a plus de jambes, enfin, qui ne peut plus marcher, de Jude Law, Eugène, qui va se renommer Eugène lui-même, et qui regarde la vie passer de l'autre côté de la vitre, puisque lui ne peut plus sortir. Donc il y a une sorte là aussi de regard sur le monde et en même temps d'emprisonnement du personnage.